Salut à tous, bienvenue dans Tech Hebdo, votre émission hebdomadaire dédiée à la tech. Avec cette semaine au sommaire de l'IA, l'intelligence artificielle encore une fois, mais cette fois avec un problème inédit qui concerne la chanson. On peut désormais faire chanter n'importe quoi à n'importe qui et évidemment, on va le voir, ça plaît pas forcément aux maisons de disques qu'on vous présente. Également un accessoire assez original, un collier connecté pour chiens, c'est imaginé par l'entreprise Invoxia et on en parle dans quelques minutes avec leur directrice générale. Et puis, on retrouvera Mélinda d'Avansoulas pour le produit de la semaine, ou plutôt les produits de la semaine, et on vous prévient, on va parler réparabilité et on risque bien de vous faire bricoler un petit peu. Tech Hebdo, c'est parti. Mais tout de suite, c'est l'actu du jour avec Luc Chagnon. L'actu avec Luc Chagnon de la rédaction de Tech & Co. Salut Luc.
Salut Raphaël.
Alors on va commencer avec l'IA, l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup, mais il y a un nouveau problème, un nouveau petit problème, ou gros problème peut-être pour l'industrie musicale, c'est qu'on commence à voir des IA qui chantent et qui chantent avec des voix qu'on connaît bien.
Et oui, parce que quand on parle intelligence artificielle, souvent on pense à la création d'images impressionnantes de réalisme comme Midjourney, on pense à la création de textes comme avec ChatGPT, mais il y a aussi de plus en plus la création de sons, de voix et la possibilité de prendre une chanson. Par exemple, vous prenez une chanson chantée par un chanteur ou une chanteuse, vous lui dites « je veux qu'elle soit chantée par cette voix-là » et avec un peu d'entraînement et en quelques minutes, l'intelligence artificielle vous proposera la chanson modifiée pour correspondre à la voix que vous vouliez.
Donc tu peux avoir du Jay-Z qui chante du Kanye West ou quoi que... Enfin, voilà. Parce qu'on a eu pas mal d'exemples avec du rap, c'est pour ça que...
C'est ça, oui. Bah, justement, on a un petit exemple qu'on a trouvé sur YouTube de la chanson Wonderwall que tout le monde connaît, qui est reprise par un artiste pas exactement contemporain d'Oasis.
On peut écouter. Génial. Alors... J'en connais évidemment la chanson, donc Wonderwall, tu l'as dit, d'Oasis.
Voilà.
La voix, je ne l'ai pas, par contre.
Effectivement, la voix, on sent la petite différence, quand même.
Mais en tout cas, on dirait une voix humaine. On dirait pas du tout une voix robotique, donc ça, c'est franchement impressionnant. Bon, déjà, elle chante juste, ce qui est déjà
pas
mal.
Voilà, on a toutes les inflexions et tout. Et en fait, c'était la voix de Kanye West qui a donc été utilisée pour modifier cette chanson. Il suffit de donner à l'intelligence artificielle plein d'extraits de la voix de Kanye West pour qu'au final, elle comprenne les inflexions, voilà, les tonalités qu'il a l'habitude d'utiliser.
J'aurais bien aimé voir du Oasis chanté par du Michel Sardou, un truc comme ça.
Franchement, alors, va falloir créer ses propres modèles, pour le coup. Mais voilà, il y a énormément des vidéos comme ça. Il y en a de plus en plus sur les réseaux sociaux. Elles ont des dizaines, des centaines de milliers de vues. Et ça va de Drake qui chante de la K-pop à Rihanna qui reprend du Beyoncé, par exemple. Et il y a tout un tas d'exemples comme ça. Et évidemment, ça ne fait pas plaisir à l'industrie musicale.
Parce que du coup, au niveau des droits d'auteur, ça se passe comment ?
Mais justement, le groupe Universal Music Group a envoyé, en mars, a contacté plusieurs la plupart des gros acteurs du streaming musical, donc Spotify, Apple Music, etc., pour leur demander de faire en sorte que les IA ne puissent pas s'entraîner en utilisant leurs chansons, parce que, effectivement, pour entraîner ces IA, il faut utiliser des musiques copyrightées. Il faut, par exemple, dans cette cover de Wonderwall, au-delà même de la question de la voix, l'instru, elle est copyrightée.
Il y a la mélodie, de toute façon, qui est copyrightée.
Donc, effectivement, ça pose de nombreux problèmes. Ce n'est pas spécifique, évidemment, aux questions d'IA musicale. C'est pareil dans les IA de génération d'images. Il y a tout un tas de questions de droits d'auteur. Et effectivement, alors on ne sait pas ce que les plateformes ont répondu à Universal Music Group, mais le groupe a assuré qu'il prendrait des mesures pour faire respecter les droits de ses artistes et les droits du groupe. Donc on peut imaginer que ça va être un front juridique assez important dans les
prochains mois. C'est-à-dire qu'en fait, il faut empêcher les IA d'aller piocher dans les bases de données qui sont en fait des playlists, les albums de
Spotify
qui sont en accès libre.
Et ça paraît compliqué, parce qu'il suffit de mettre le lien dans un converteur MP3, et voilà, vous avez la musique, vous pouvez la modifier un peu comme vous voulez. Donc ça paraît très compliqué de bloquer l'entrée. Après, pour ce qui est de la publication, ça peut être une problématique un peu différente. On peut détecter, on peut imaginer un logiciel qui détecte la voix de leur chanteur sur les plateformes et vérifier si c'est par IA ou si c'est une chanson légitime ou alors si elle était créée de toute pièce et donc là, la faire striker.
Et puis après, la question, je suppose, ça va être est-ce qu'on fait de l'argent avec ça ? Parce que si on fait ça, entre guillemets, pour la beauté du geste, on n'a pas le droit, ça va être striker, c'est-à-dire supprimé sur les réseaux sociaux. Mais si derrière, on gagne de l'argent avec, c'est encore un autre problème. Alors, on va rester sur un autre problème qui est lié à l'IA. On revient sur de l'image d'ailleurs. C'est des histoires. Alors, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux des histoires de peste bleue, de tsunami aux États-Unis. Alors raconte-moi ça.
On redécouvre
parce que
des événements du passé
inédit.
On redécouvre des événements du passé qu'on avait oubliés entre guillemets. Oui, par exemple, il y a un autre exemple de voilà, on a trouvé une page dédiée à raconter l'histoire du tremblement de terre et du tsunami qui aurait frappé la côte pacifique des États-Unis et du Canada en 2001. Donc on voit des photos de gens paniqués, du tsunami qui aurait frappé la côte en question, des dégâts que ça aurait provoqué, du nombre de victimes. Sauf qu'en fait, cet événement, eh ben, il n'a jamais eu lieu. Malgré les photos parfaitement réalistes qu'on peut voir au premier coup d'œil, on a du mal à imaginer. Ça reprend même le style des photos d'époque, le grain des appareils.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'est des internautes un peu imaginatifs qui créent des nouvelles. C'est un peu des dystopies, presque, c'est ça ?
C'est ça.
Mais avec du Midjourney, c'est-à-dire qu'ils vont imaginer un drame, je ne sais pas, une catastrophe naturelle qui aurait eu lieu en 2000 aux États-Unis, un tsunami, et ils créent des images et ils vont raconter ça. Le problème, c'est que ce n'est pas toujours présenté comme clairement une fiction. C'est ça le problème.
Effectivement, voilà, y a plusieurs contes qui sont dédiés, cette méthode-là, c'est un moyen comme un autre en fait, de raconter des histoires. Voilà, comme il existe des livres, donc, je crois que le terme exact, c'est uchronie, voilà, raconter un événement qui ne s'est pas passé.
Oui, uchronie.
Voilà. Et voilà, il y a tout un tas de contes comme ça dédiés à raconter des histoires un peu dans ce genre-là. Mais effectivement, tous ces contes, alors certains précisent effectivement qu'il s'agit d'inventions, mais ils peuvent ils le précisent dans l'image, soit ils le racontent dans la biographie du conte, donc c'est pas toujours visible quand on tombe sur une image, et il y en a qui le précisent pas du tout.
Et surtout sur TikTok, où franchement, quand on voit le format TikTok, pour aller voir les commentaires, en général, faut cliquer, enfin c'est pas comme sur Instagram,
faut c'est-à-dire
vraiment
ouais.
Y aller soi-même.
Encore plus quand c'est dans la biographie du conte, donc il faut une page à part, etc. Et donc effectivement, on peut imaginer dans 10, 15, 20 ans, 30 ans, quand les moyens de créer ces images-là seront encore plus réalistes et encore plus répandus, en tout cas, vu le développement qu'on a pu constater ces derniers mois.
Moi, je dirais dans 6 mois, mais bon, quand tu dis dans 20 ans, moi, je dis dans 6 mois.
Mais effectivement, on peut se demander, déjà, actuellement, on peut tomber sur des choses comme ça et se demander, mais alors, est-ce que c'est vraiment arrivé ? Il y a d'autres exemples qui montrent, d'autres contes qui montrent, par exemple, Staline qui se serait exilé à Nice en 1925 après la prise de pouvoir d'un autre concurrent communiste. Enfin, voilà, c'est tout un tas d'événements comme ça qui ne se sont jamais passés. Et quand ça reproduit, effectivement, le grain, on va dire, vraiment le style de. On peut imaginer que des internautes qui tomberaient là-dessus dans le futur auront du mal à distinguer le réel de la fiction.
Oui, c'est-à-dire qu'en plus, tu as le conte, mais même si le conte explique clairement que c'est une fiction, rien n'empêche à quelqu'un d'autre, moins scrupuleux, de prendre l'image et de la publier ailleurs. Et quand on voit le nombre de théories complotistes qu'ils ont créées avec rien, on imagine quand il y a des images, quoi.
Oui, c'est là, effectivement, là, il y aura une base encore plus concrète pour appuyer ce genre de scénario. Ouais.
Très rapidement, on reste encore une fois dans l'IA, mais parce que forcément, on a envie de parler de lui comme fréquemment, Elon Musk, qui finalement, il avait signé une lettre ouverte pour mettre une pause, un moratoire pour le développement de l'IA, sauf qu'en fait, lui, il a embauché une équipe d'IA, il a créé une entreprise spécialisée dans l'IA pour faire un peu son ChatGPT à lui.
C'est ça, voilà, ce ne sera pas le premier paradoxe d'Elon Musk, on va dire, mais effectivement, lui qui avait signé un moratoire pour le développement d'IA plus puissante que GPT-4, donc voilà, une des plus grosses IA de génération de texte qui existe aujourd'hui, et il a créé sa propre entreprise, effectivement, qui s'appelle X.AI, enfin X.AI.
X, ouais.
Donc voilà, une lettre qu'il affectionne particulièrement, et qui donc aurait pour ambition de rivaliser avec OpenAI, le créateur de ChatGPT. Ce qui est un autre paradoxe, vu que Elon Musk fait partie des financeurs initiaux
de OpenAI. Il a quitté le navire il y a un petit moment, il y a 3-4 ans.
Oui,
il
s'était distancé au fur et à mesure, et aujourd'hui, il considère que l'entreprise est trop fermée, c'est-à-dire contrairement à ce que son nom indique, elle publie pas ses recherches utilisables par le grand public, donc c'est des modèles qui lui servent et qui passent toujours par OpenAI, donc l'argent passe aussi par OpenAI. Et il considère que l'entreprise est devenue trop « woke », entre guillemets, donc qu'elle censure un peu trop les choses qu'il est possible de générer par ses programmes.
Donc il veut faire Musk GPT. Ouais. Alors il a quand même récupéré des anciens de Google, si je ne dis pas de bêtises. Il a acheté un peu de matos aussi. Il a acheté des cartes, enfin je sais pas, c'est pas des cartes graphiques, mais enfin des serveurs,
c'est ça, hein. Oui, voilà, effectivement, c'est des intelligences artificielles pour les entraîner. En gros, voilà, on donne énormément de données à tout un tas de machines, donc qui reposent sur des cartes graphiques, voilà, des composants qui habituellement servent surtout aux jeux vidéo, mais qui là servent à calculer énormément de données comme ça et à déterminer les rapports, les probabilités, on va dire, pour générer la phrase la plus probable, etc. Ce qui donne aujourd'hui ChatGPT, GPT-4, et donc on peut imaginer d'autres programmes ensuite créés par OpenAI ou par X.AI.
Dernière info, Luc, alors c'est pas totalement anodin, Pornhub, le site porno, l'un des principaux sites porno au monde, qui pourrait être bloqué en France à partir de cet été, dès le mois de juillet.
Effectivement, là on n'a pas d'IA dans l'histoire pour le coup, mais
ça pourra arriver,
on sait jamais.
Malheureusement.
Mais effectivement, le site donc fait face à une procédure engagée par l'ARCOM qui
qui en fait lui reproche voilà, de ne pas vérifier l'âge des internautes.
Oui, voilà, effectivement, le problème principal, donc ce pourquoi Pornhub et d'autres sites d'image pornographie pourraient être bloqués cet été, c'est parce que voilà, il y a une procédure qui est engagée et que la décision est attendue pour le 7 juillet, parce qu'effectivement, les sites sont critiqués pour ne pas vérifier l'âge des internautes qui rentrent sur le site, sachant qu'ils ont pour obligation légale de confirmer que les internautes qui consultent les sites ont plus de 18 ans, ouais, ce qui n'est pas fait aujourd'hui.
Oui, alors c'est vrai, en fait, quand on arrive sur Pornhub, il y a juste un message d'avertissement. Est-ce que vous promettez que vous avez plus de 18 ans? Il leur demande de vérifier l'âge des internautes, sauf qu'il n'y a pas de mesure technique qui existe pour le faire en préservant les données personnelles.
Voilà, actuellement, si aucun site le fait, c'est d'un côté parce que c'est bien pratique pour eux, mais de l'autre, effectivement, c'est que il n'y a aucune technique. Une des techniques que le gouvernement envisage, c'est de faire en sorte, c'est de passer par ce qu'on appelle le tiers de confiance. Ouais. En gros, on fait en sorte que l'internaute puisse confirmer sa majorité auprès d'un acteur qui n'a rien à voir avec le site d'image pornographique. Et ensuite, quand il veut accéder à ce site-là, on demande au site de vérifier s'il est bien majeur. Ouais. Mais actuellement, c'est difficile à mettre en place et il y a tout un tas de questions effectivement sur la gestion des données personnelles. Est-ce que l'identité pourra rester secrète, etc.
Oui, et puis il y aura ceux qui vont respecter les règles et les 50 000 autres sites qui ne les respecteront pas. Donc ça va être assez compliqué. Merci beaucoup, Luc. On va passer à un autre sujet, alors un sujet qui n'a rien à voir. On va parler santé connectée, mais alors pas votre santé connectée, la santé connectée de votre chien avec un collier connecté qui est présenté par l'entreprise Invoxia. Et on reçoit dans quelques secondes sa directrice générale. Et tout de suite, on va vous parler d'Invoxia, une entreprise française qui lance un collier connecté pour chiens. Bonjour Amélie Caudron.
Bonjour.
Vous êtes PDG d'Invoxia. Alors Invoxia, c'est une entreprise qu'on connaît quand même depuis quelques années maintenant, qui lance régulièrement des trackers pour les motos, des trackers aussi pour les animaux de compagnie.
Oui.
Et puis là, on le voit avec ce magnifique petit chien, enfin c'est une femelle, un collier connecté pour chien. Alors vous présentez ça un peu comme l'Apple Watch du chien, bon, sauf qu'évidemment sur les pattes c'était compliqué, donc c'est autour du cou. Expliquez-nous à quoi ça sert ce collier connecté.
Oui, bien sûr. Donc effectivement, on est une entreprise, une start-up française dans les objets connectés et on conçoit tout de A à Z. Et donc là, la grande nouveauté de ce qu'on vient de lancer commercialement, c'est un collier pour chien qui embarque pour la première fois un scan de santé cardiaque, en plus du suivi de santé et de suivi GPS. Donc, on va aller chercher le rythme cardiaque et respiratoire du chien au repos, ce qui est vraiment une nouveauté.
C'est exactement la fonction qu'a l'Apple Watch chez les humains. C'est-à-dire, il y a le rythme cardiaque, le rythme respiratoire au repos, etc., pendant le sommeil, notamment.
Oui, donc en fait, il y a un parallèle assez fort, effectivement, entre ce qui se fait en santé humaine avec l'Apple Watch, avec ce que fait Withings avec la ScanWatch, par exemple, en France, qui est qu'on est capable d'aller chercher des signaux de manière non-invasive et régulière dans la vie quotidienne des patients et d'aller voir des marqueurs de maladie et donc d'aller vers de la médecine préventive au lieu d'être sur du curatif où on va voir des spécialistes une fois par an ou une fois tous les X ans.
Et alors, vous parlez de Withings, Apple Watch, Withings, etc. En général, il y a des certifications, par exemple, dispositif médical pour le rythme cardiaque, oui. pour l'ECG aussi chez Apple et chez Withings. Oui. Là, comment vous avez fait? Il y a des certifications comme ça aussi par des vétérinaires. Alors, je ne connais pas exactement l'équivalent pour les animaux de compagnie, mais il y a des certifications.
Donc on a créé nous-mêmes. Donc la technologie, c'est une technologie qu'on a brevetée donc pour aller chercher ce rythme cardiaque. J'insiste là-dessus, mais en fait, tout ce qui est utilisé en santé humaine aujourd'hui, c'est quasiment impossible à utiliser sur le chien à cause du poil.
Oui, donc les trackers,
les capteurs optiques ou électriques, ça ne fonctionne pas. Donc nous, on a un mix de capteurs, un mix propriétaire et breveté de capteurs de mouvement et d'algorithmes de machine learning qui vont aller chercher avec une précision médicale. Donc on est au-delà de 97% de précision par rapport à des outils de référence.
C'est un accéléromètre? C'est quoi? C'est un capteur de mouvement?
Donc, il y a un mix de plusieurs capteurs.
D'accord.
Et des algorithmes de deep learning qui vont un peu être personnalisés en fonction du chien, etc. Et qui vont nous permettre d'aller chercher ces signaux quand le chien est au repos. Et on travaille avec un board scientifique de vétérinaires de haute volée. On a Valérie Chedboul, par exemple, qui est professeur, qui dirige l'unité de cardiologie de Maison Alfort en France. On a aussi une personne qui s'appelle Daniel Promislo, qui est à l'Université de Washington et qui est spécialisée dans l'étude du vieillissement du chien. Et donc, ils nous ont accompagnés dans le développement de tous ces algorithmes pour avoir une précision de grade médical.
Et alors, du coup, quand on a ce collier, on le met à son chien, concrètement, on voit quoi ? On a une appli, évidemment.
Oui.
On a une appli santé, comme son appli santé, si on a une montre connectée, avec des graphes, le rythme cardiaque. J'ai vu sur votre site aussi qu'il y avait une représentation un peu en 2D, comme un nuage de la santé cardio-respiratoire. Ça correspond à quoi ?
Oui. Donc, effectivement, donc on met le collier sur le chien et ensuite on va avoir automatiquement dans l'application, on va pouvoir suivre le rythme respiratoire au repos, le rythme cardiaque au repos et la signature cardiaque du chien qui est en fait une représentation géométrique en 2D des battements du cœur du chien et qui fait l'objet de pas mal de projets de recherche qu'on s'apprête à lancer. Donc en fait, cette forme, elle va donner des indicateurs sur le niveau d'arythmie, par exemple, du chien. Donc chez l'humain, en fait, c'est utilisé en cardiologie humaine, cette représentation. Chez l'humain, les points vont être sur une diagonale s'il n'y a pas d'arythmie. Tous les chiens font un petit peu d'arythmie, mais en fonction du niveau de stress, en fonction des pathologies, la forme va changer. Donc on pense qu'elle contient des marqueurs intéressants sur le vieillissement du chien, sur les pathologies, etc. Et donc ça va être vraiment le sujet de ce qu'on cherche à construire, en fait. C'est d'en faire un outil de prédiagnostic. On le met sur un chien et on est capable de voir que par rapport aux valeurs habituelles pour une race, pour un âge, on est sur un chien qui aurait plutôt telle ou telle caractéristique. Et l'idée, c'est vraiment de permettre aux propriétaires du chien d'être alertés très vite en cas de changement.
Donc, j'ai des alertes qui s'affichent s'il y a un rythme inhabituel. Parce que chez les humains, alors c'est vrai que les montres connectées, c'est évidemment pour les maladies cardiaques, mais heureusement, ce n'est pas quand même le quotidien. Le quotidien, c'est plus l'utiliser pour mesurer un peu ses performances sportives. Tiens, j'ai couru, j'ai fait 50 minutes avec tel battement. Bon, ça, pour les chiens, on ne va pas s'amuser. Enfin, je ne sais pas.
Alors, il y a des personnes qui sont dans la performance.
Si leur chien est plus endurant et gagne en endurance. Mais j'imagine, c'est quand même surtout le côté santé. Donc là-dessus, on a des alertes qui s'affichent s'il y a un rythme cardiaque qui n'est pas normal.
Voilà, en gros, le propriétaire du chien va pouvoir visualiser l'évolution dans le temps de ces métriques, donc le rythme cardiaque et respiratoire au repos, qui sont encore une fois des indicateurs. En fait, le rythme cardiaque, on pense que le cœur, c'est un organe assez simple, juste une pompe qui envoie du sang dans le corps. En réalité, c'est un organe qui est extrêmement complexe. Et dans le rythme cardiaque, on peut trouver plein d'informations sur le stress, la douleur chronique, des problèmes neurologiques, des problèmes hormonaux de l'animal. Et donc, évidemment, la base, ça va être de suivre, apprendre à connaître les valeurs habituelles de mon chien ou de la race de mon chien, etc., pour vérifier que tout va bien. Et effectivement, aller consulter si je vois que l'une ou l'autre des métriques va augmenter de manière significative dans le temps. Mais demain, on va développer tout un... Enfin, l'idée, c'est d'aller vraiment chercher des nouveaux, ce qu'on appelle des biomarqueurs digitaux, qui vont être des indicateurs de maladie, de vieillissement,
de problèmes. Concrètement, ça peut être quoi, par exemple ?
Ça peut être que dans les signaux qu'on interprète, on est capable de prédire, par exemple, qu'il y a un niveau d'arythmie qui est anormal, que là, il y a, enfin, la probabilité que l'animal ait telle ou telle pathologie est de temps, qu'il est, par rapport aux autres individus de la même race.
On arrive chez le vétérinaire presque en sachant un peu où chercher.
Voilà, en fait, l'idée, c'est d'alerter. Un chien, en fait, ça va vivre une dizaine d'années. On va chez le vétérinaire une fois par an, c'est comme si nous, on allait chez le médecin une fois tous les 10 ans, quoi. Et là, le médecin peut aller faire un examen en profondeur. On a peut-être loupé tout un tas de choses qui font qu'on s'y prend trop tard. Le chien, en plus, n'est pas capable de communiquer, donc il va pouvoir masquer la douleur, les problèmes qu'il a. Et en fait, si on s'y prend trop tard, ça réduit fortement les chances de pouvoir administrer le bon traitement au chien et donc de lui permettre de vivre plus longtemps et en meilleure santé.
Et alors, on retrouve une fonction qu'il y avait sur votre précédent tracker, enfin qui était juste un tracker d'ailleurs, c'est la localisation GPS. Donc, on peut localiser son chien avec un GPS, toujours sur l'appli. Très rapidement, sur la batterie, ça se recharge comment ? Tous les combien de temps ?
Alors, ça se recharge en USB-C et ça se recharge tous les 15 jours.
Tous les 15 jours, ok. Voilà. Et alors, au niveau du prix, parce que ce n'est pas donné quand même, c'est 250 euros.
Oui,
et il y a un abonnement avec. Hein,
et un abonnement, oui.
Qui est obligatoire.
Oui.
D'accord. Donc, alors moi, j'avais calculé sur 15 ans, ça fait 2000 euros. Bon, sur 10 ans, du coup, ça fait un peu moins cher. Donc, c'est le prix d'une opération chez un vétérinaire qui est évité ou quelque chose comme ça.
Aujourd'hui, aux États-Unis, si on diagnostique un problème cardiaque à mon chien, donc ça va être souvent un souffle au cœur qui va être détecté par un vétérinaire qui n'est pas forcément spécialisé, on va m'orienter vers une échocardiographie qui va me coûter en moyenne 1 000 $.
Ouais.
Ça, c'est juste un ordre de grandeur. Et ensuite, si le chien entre en insuffisance cardiaque congestive, qui est une conséquence grave de pas mal de problèmes cardiaques du chien, Là, en fait, ça va être une écho tous les 6 mois pour vérifier l'évolution de la maladie, etc.
Donc derrière ça, donc, ça coûte.
En fait, il faut comparer et bon, il y a quand même le côté la longévité du chien et lui permettre d'augmenter sa durée de vie en bonne santé.
Oui, parce que tout ça, c'est pas de l'argent, c'est aussi parce qu'on aime nos animaux et qu'on a envie de les garder avec nous. Comment elle s'appelle ?
Peppa.
Peppa, et ben voilà, bah Peppa, j'espère qu'il va être en pleine santé. Merci beaucoup Amélie Caudron.
Merci,
je rappelle, vous êtes PDG d'Invoxia avec, donc ça s'appelle le Smart Dog Collar, le collier connecté pour chien qui est disponible à 250 € avec un abonnement de 10 € par mois, si je ne dis pas de bêtises. On continue à parler produits, on va vous faire un peu bricoler tout de suite, on va parler réparabilité avec Melinda d'Avansoulas. Et on retrouve le produit de la semaine avec Melinda d'Avansoulas de la rédaction de Tech & Co. Salut Melinda.
Salut Raphaël.
Bon, tu vas nous faire bricoler là, d'après ce que je vois sur la table, avec un smartphone, le Nokia G22. On parle beaucoup de réparabilité en ce moment, c'est très important pour beaucoup de monde. On va parler, c'est même un thème très utilisé d'ailleurs par l'industrie. Mais donc Nokia qui sort ce G22, en gros, d'après ce que je comprends, c'est qu'on peut le réparer soi-même et facilement.
Alors voilà, c'est pas le smartphone de l'année, on n'est pas dans la catégorie des ultra premium, je préfère prévenir tout de suite, c'est un smartphone qui vaut moins de 200 €. Mais il a plusieurs avantages. En fait, déjà, il peut être réparé. C'est-à-dire qu'on peut remplacer sa batterie, on peut remplacer l'écran s'il est cassé, on peut remplacer le port, par exemple, de la carte SIM. Mais tout ça, chez soi.
Oui, on n'a pas besoin de l'amener chez un réparateur.
Et non, c'est ça la grande nouveauté. Pourquoi ? Parce que pour aller avec ce smartphone, alors, smartphone tranquille, hein, c'est, comme je dis, ce n'est pas les grosses réparations.
Oui, c'est moins de 200 €, donc c'est pas... Non, mais en même temps, tu vas nous l'expliquer, mais je suppose qu'on peut ouvrir le
arrière et tout. Quoi. Tu sais, comme avant, on pouvait faire, c'est-à-dire ouvrir l'arrière, changer la batterie. Alors aujourd'hui, les batteries, elles sont fixées, on ne peut pas les changer aussi facilement, c'est quand même bien dommage. Donc, on est obligé quand même de s'armer d'un petit kit avec tous les outils. Nokia a noué un partenariat avec iFixit, le célèbre site qui permet d'avoir tous les tutoriels pour réparer son smartphone, de quelle que soit la marque d'ailleurs.
Le Yuka de la réparabilité.
J'aime beaucoup.
Donc, une petite note, et maintenant ça devient de plus en plus important d'avoir une bonne note iFixit.
Et aujourd'hui, en fait, on explique tout étape par étape et on commande les pièces qui nous intéressent. Nokia, ils ont simplifié les choses. Avec ce Nokia G22, il y a le kit assorti. On peut réparer. Alors, on ne peut pas tout réparer. On peut réparer la batterie, on peut réparer l'écran, changer l'écran, ce qui est quand même la panne.
Ouais, quand tu le fais
la
tomber,
plus fréquente,
quoi.
Voilà.
Mais tu as un deuxième écran qui est livré avec ?
En fait, on commande ce petit kit et on commande la pièce sur le site d'iFixit qu'on a renvoyé.
C'est pas livré avec ?
Si, on commande tout en même temps.
Oui, mais c'est pas dans le prix, ce que je veux dire. Il faut payer en plus.
Alors, le téléphone vaut 200 €. Le kit, il est en plus.
OK.
Le kit, en gros, un kit comme ça, c'est 5 €. Ouais, avec toutes les pièces, pas très cher. Ouais. On achète en fait plus cher la pièce qui va avec. Donc, pour te donner une idée, par exemple, pour le port de charge, si on veut de carte SIM, si on veut l'acheter, la pièce qui manque, c'est 19,95 €. Et on ajoute 5 € pour avoir en plus le kit.
Et l'écran ?
L'écran, c'est 49,95 €. Tous ceux qui ont fait changer leur écran dans des magasins, ils doivent là déjà être un peu en panique parce que ce n'est pas en général les prix qu'on nous annonce.
Ouais. Bon, après, c'est déjà un quart du prix, tu me diras, du téléphone.
Sur un smartphone.
Mais en même temps, c'est...
On n'est pas sur un écran OLED, on n'est pas sur un écran très, très avancé. C'est un écran, pour vous donner juste comme ça, 6,52 pouces, FHD, 500 nits, donc au niveau de la luminosité, c'est pas dingue. On n'a pas une grosse techno sur
cet écran. Ça fait le job, quoi.
Non, mais c'est surtout un smartphone qui brille pour plusieurs choses. L'autonomie, il tient 3 jours. Quand même, en usage...
Vraiment 3 jours ou...
usage standard.
Okay.
Voilà. C'est, évidemment, si vous commencez à vouloir jouer, mais ce n'est pas fait pour, autant prévenir tout de suite.
De toute façon, tu ne peux pas. Donc
on ne peut pas, c'est assez limité. Il a aussi une coque, il est pensé vraiment réparabilité. La coque, elle est en plastique recyclé à 100%. Ils ont fait un effort, l'emballage est en carton recyclé, enfin, ils ont vraiment pensé environnement.
Et de loin, ça ne fait pas trop cheap.
Non.
Je trouve. Alors, il y a un peu les traces de doigts. Là.
Oui, là, c'est.
Il y a un magazine vite les traces de doigts.
Bah, désolé, c'est mais, parce que j'ai essayé d'ouvrir.
Mais c'est un super bon test, quand même, les traces de doigts sur un téléphone, en général. Mais globalement, esthétiquement, je trouve que ça passe. Il a l'air assez fin.
Est assez fin. Il ressemble à un smartphone dans cette gamme de prix-là. Mm. Il n'est pas extraordinaire, mais il fait le job. À moins de 200 €, on a des smartphones qui, en général, ont des atouts. Voilà. Lui, c'est l'autonomie. D'autres, ce sera l'écran. On ne peut pas tout avoir pour ce prix-là. Mais on peut le réparer.
T'as testé ou pas ?
La réparabilité ? Ouais. Non, je l'ai fait faire. J'avoue que j'avais eu la présentation par Nokia pour regarder. Je fais partie de ces gens qui ont un peu peur quand même de réparer eux-mêmes.
Moi, ça, tu me mets ça, je suis terrorisé. Je ne touche à rien. Parce que moi, je ne peux pas monter une chaise IKEA, tu vois.
Donc, tu n'achèterais pas le kit, tu ne demanderais pas le kit Apple pour réparer ton iPhone.
De 800 kilos.
Voilà, exactement. Non, mais parce que ça, c'est vraiment une grosse tendance quand même de réparer, comme tu disais. On a le choix aujourd'hui, on va réparer en magasin, rapidement. Donc, par exemple, il y a des marques comme Oppo qui ont noué des partenariats avec WeFix pour aller en une heure réparer son smartphone. Oppo, évidemment, mais avoir toutes les pièces et que ce soit fait très, très vite. Apple a étendu son réseau d'opérateurs agréés, enfin d'agents agréés et de magasins. On peut aller à la Fnac, par exemple, réparer un iPhone très, très vite. Donc, il y a vraiment un souci de réparabilité. Sinon, vous pouvez acheter un Fairphone et avoir quelque chose qui est en kit et qui se répare facilement. Ou bien, c'est aussi le truc de le faire soi-même. Donc, avec Apple et ses caisses de 70 kilos, avec des tonnes de pièces qui ne servent à rien.
Ça, c'était presque une provocation, parce qu'il y a quand même une pression qui est de plus en plus importante sur les fabricants de smartphones, sur la réparabilité en France.
On a l'indice de réparabilité.
Alors, après, ce n'est pas non plus un signe de durabilité. En fait, le problème, je trouve, c'est qu'on confond facilement réparabilité et durabilité, alors que ce n'est pas la même chose.
Ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas oublier de préciser aux gens que l'indice de réparabilité qu'on voit maintenant fleurir partout, il n'est pas donné par une commission. Ce sont les marques elles-mêmes qui se l'attribuent selon des critères. Alors certes, il y a toute une grille de critères.
Elles ne peuvent pas trop tricher quand même.
Elles ne peuvent pas trop tricher, mais elles peuvent aussi voir les choses comme elles le sentent. Ouais. Donc, il faut quand même s'en méfier un petit peu. Ça donne un bon indice de ce qui est faisable ou non.
Mais si c'est réparable, tu peux même le réparer facilement chez toi, mais qui ne se met pas à jour dans 2 ans, que le processeur est tellement naze qu'il tombe en rade dans un an et demi...
Ça, on peut pas tout.
Tu peux le réparer, mais il s'allume plus. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Je trouve que c'est.
Contrairement à un PC dont on peut changer les pièces, changer la carte mère, changer des choses pour le faire durer.
Tu peux pas changer le processeur.
On ne peut pas changer sur un smartphone. Donc, on va à l'essentiel, ce qui est déjà pas mal pour avoir une durée de vie un peu plus longue. Mais en effet, l'aspect logiciel ne changera pas la donne. D'où l'importance quand même d'avoir ces kits-là. Alors, Samsung le fait aux États-Unis pour ses Galaxy smartphones et tablettes. On espère qu'un jour. Ça ira au-delà des États-Unis, parce que ça reste quand même une bonne idée, ça reste facile.
Mais je trouve que c'est presque, à mon avis, bon, évidemment, quand son smartphone est cassé, c'est un peu embêtant, mais il faut presque le prendre comme une sorte de loisir aussi, parce qu'il y a un côté un peu ludique.
Il vaut mieux.
Non, mais il vaut mieux pour garder ses nerfs. Non, mais parce qu'en vrai, l'immense majorité des gens qui ont besoin de réparer leur smartphone...
Ils vont le faire.
Oui, mais ce qu'il faut, c'est que ce soit fait à proximité, et que ce ne soit pas une galère, c'est ça qui est important.
Là, ce qui est bien, c'est qu'il y a tous les tutoriels. C'est-à-dire que vraiment, si vous êtes courageux, que vous voulez le faire, c'est étape par étape, tout est expliqué, il y a des vidéos, des images. Pour les plus courageux, honnêtement, je pense que c'est simple. Là, ils promettent de pouvoir changer un écran en moins de 5 minutes. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui ne doit pas être compliqué, qui doit être facile, qui n'ait pas des manipulations trop complexes. Parce que le problème chez Apple, par exemple, c'est que les manipulations sur un iPhone 13 ou 14, même si le 14 a été pensé réparabilité dans sa construction, il faut quand même y aller de manière très minutieuse.
Donc ça, la promesse, c'est 5 minutes.
5 minutes.
On peut le réparer. Alors, tu sais ce qu'on va faire? Tu vas t'engager à le faire. On va faire une vidéo pour Tech & Co.
La pression.
On va faire une vidéo, un article sur la plateforme Tech & Co. Et tu vas nous montrer si tu peux le réparer en moins de 5 minutes.
Oh là là, la pression.
Quelque part, si tu arrives à le réparer aussi, c'est que ça montrera que le truc... C'est bien foutu quelque part.
C'est bien fait.
Voilà. Bon, merci beaucoup, Melinda. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans Tech Hebdo. La semaine prochaine, évidemment, vous retrouvez Jérôme et François. Je suis sympa, je leur rendrai la place. À très vite.